Point de mire.
Une association, une œuvre, une fondation.
Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Une action, une organisation, une institution.
On retrouve Émilie Julia.
Valérie Pécresse, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, a remis le second prix national Claude Lévi-Strauss à Jean Tirole à l'Académie des sciences morales et politiques le 29 novembre 2010. Canal Académie vous propose d'écouter les discours du ministre à l'origine de la création du prix ainsi que du lauréat. Retrouvons tout de suite Valérie Pécresse, puis le discours du lauréat Jean Tirole.
Claude Lévi-Strauss nous a quittés il y a près d'un an. En remettant aujourd'hui, au lendemain du 102e anniversaire de sa naissance, le prix qui porte son nom, je tiens avant toute chose à lui rendre hommage. Et je veux vous dire, chère Madame Lévi-Strauss, combien je suis touchée de votre présence ici aujourd'hui. Votre époux avait volontiers accepté de parrainer le prix que je souhaitais créer pour reconnaître l'excellence dans le domaine des sciences humaines et sociales. Sa modestie lui interdisait sans doute d'y voir autre chose qu'une marque de respect vis-à-vis d'une figure tutélaire, je dirais même, si j'osais, une figure totémique, puisque chacun sait que, grâce à Lévi-Strauss, le totémisme n'existe pas. Sa modestie l'induisait pourtant en erreur, car ce prix, nous l'avons créé pour récompenser tout ce que Lévi-Strauss incarnait. Et je ne pense pas seulement à l'excellence scientifique, car Claude Lévi-Strauss était plus qu'un esprit d'exception, c'était un pionnier, un fondateur, je dirais même un aventurier du savoir. Chacun de nous sait, tant la phrase qui ouvre Triste Tropique est restée célèbre, qu'il haïssait les voyages tout autant que les explorateurs. Mais ce serait mal le comprendre que de croire qu'il bannissait ainsi l'esprit de découverte et même d'aventure du champ des sciences humaines et sociales. Car ce coup de colère froide contre l'aventure traduisait avant tout son rejet viscéral du pathos de l'étrangeté. Ce pathos que cultivèrent longtemps les explorateurs de toutes sortes. Il avait en horreur la passion de l'exotisme, celle-là même qui conduit, au fil des récits de voyages chaleureux et pigarrés, à s'arrêter avec force détail sur l'étrangeté des mœurs, des rituels ou des costumes, sans jamais y voir autre chose que des curiosités aussi charmantes qu'insignifiantes. La passion de l'exotisme, c'est la passion de la différence pour la différence. Elle ne cherche pas à rendre compte de ces différences, à leur restituer leur signification, en un mot, à les prendre au sérieux. Elle cultive simplement le plaisir du dépaysement, oubliant au passage que ce charmant sauvage que rencontrent les voyageurs est d'abord et avant tout un homme. Et c'est parce qu'il ne pouvait l'oublier que, sans jamais chercher l'excitation du voyage et le frisson de l'aventure, Claude Lévi-Strauss fut lui-même un grand voyageur et un aventurier au sens le plus noble du terme. Un voyageur parce qu'il entendait bien se confronter à la différence et à l'altérité pour rendre compte en raison et à sa manière de ce paradoxe qui fait d'autrui un autre moi-même. Et un aventurier car pour rendre intelligible la différence, pour rendre visible derrière leur apparente étrangeté les structures communes les unes aux sociétés les plus éloignées les unes des autres, eh bien il lui fallut construire une discipline, l'ethnologie, et le faire en n'hésitant pas à pénétrer sur le champ de toutes les autres sciences sociales. La philosophie, bien sûr, mais aussi la psychologie, la linguistique et bien d'autres encore. L'immense prestige qui s'attache à son œuvre, Claude Lévi-Strauss le doit à cet esprit d'aventure qui le conduisit à renouveler profondément les sciences sociales, non pas par plaisir de s'aventurer sur un champ qui n'était pas le sien, mais parce que c'était la seule et unique manière de faire œuvre de savant. Aussi, Claude Lévi-Strauss incarne-t-il la forme la plus achevée, à mes yeux, de l'interdisciplinarité. Celle qui n'est ni le produit d'une injonction venue du dehors, ni d'un désir factice d'importer quelques concepts originaux, mais celle qui se construit à partir d'un champ et d'un objet de recherche qui exige, pour être étudié, que soit réunie la puissance conceptuelle de disciplines distinctes. Alors c'est pour cela, cher Jean Tirole, que ce prix Lévi-Strauss vous va si bien. C'est pour cela qu'il allait si bien aussi à Dan Sperber l'année dernière. Parce qu'il consacre non seulement des recherches dont l'exceptionnel rayonnement ne fait aucun doute, mais aussi l'esprit d'ouverture et d'aventure qui les a rendus possibles et qui a présidé à l'ensemble de vos parcours. Alors Jean Tirole, l'économie. L'économie que vous avez largement contribué à enrichir et à renouveler. Vous ne l'avez rencontrée, parce qu'il faut tout raconter, que sur le tard. Du moins si on adopte les critères propres à notre pays, qui aime à orienter les jeunes esprits, y compris les plus brillants d'entre eux, vers des voies toutes tracées, et cela le plus tôt possible. Parce que vous aimez les sciences exactes, et que vous brillez particulièrement en mathématiques, le jeune homme que vous êtes alors se tourne naturellement vers les classes préparatoires, au lycée Henri Poincaré à Nancy, avant de rentrer à l'école polytechnique et de rejoindre le corps des ponts. Mais les chemins bien balisés du corps des ponts ne sont pas faits pour vous. Dans ces écoles d'exception, vous avez certes le privilège d'assouvir votre soif de mathématiques en suivant les cours de Laurent Schwartz. Mais vous découvrez aussi les sciences sociales et singulièrement l'économie. À l'instar d'un Maurice Allais, dont le parcours ressemble de manière frappante au vôtre, le mathématicien et l'ingénieur que vous êtes aussi comprend immédiatement qu'il a trouvé dans l'économie les nourritures intellectuelles dont il a besoin. Alors permettez-moi d'y insister un instant, car dans votre parcours ou dans celui de Maurice Allais, certains seraient peut-être tentés de voir la preuve que l'économie est une science sociale à part. La seule capable, par son formalisme mathématique et ses multiples applications, de séduire les ingénieurs et les mathématiciens. Je crois que le croire serait commettre une profonde erreur. Car ce qui vous a convaincu de vous consacrer à l'économie, ce n'est pas seulement l'esprit de rigueur et le souci de l'application dont vous étiez familier, mais ce sont aussi les liens qu'elle entretient avec l'ensemble des sciences humaines et sociales. L'économie n'est pas un empire dans l'ancien empire. Bien au contraire, c'est une discipline au carrefour de toutes les autres, qui offre un remarquable point de vue sur l'ensemble de ces sciences que l'on nommait autrefois les sciences de l'esprit, et que votre compagnie, mesdames et messieurs les académiciens, baptise du beau mot de sciences morales et politiques. Vos travaux, cher Jean Tirole, en offrent la plus parfaite démonstration, car ce qui frappe l'observateur, en effet, ce n'est pas seulement l'ampleur des thèmes et des domaines de l'économie que vous avez abordés, et souvent renouvelés. Je pense ainsi à la théorie des organisations, à la finance, au fonctionnement du marché du travail ou bien encore à l'économie industrielle. Mais ce qui frappe aussi, et peut-être surtout, c'est l'aisance et l'élégance avec laquelle vous avez fait appel pour traiter ces multiples questions aux acquis des sciences humaines et sociales, enrichissant ainsi au passage les concepts et les méthodes de l'économie. Tout autant que votre parfaite maîtrise des outils mathématiques, l'intérêt que vous portez à la psychologie, à la science politique, est au cœur de votre recherche. À la psychologie, tout d'abord, car elle est au cœur de l'approfondissement de la théorie des jeux, dont vous avez exploré toutes les dimensions avec un raffinement extrême, nous le savons. C'est ce même intérêt pour la psychologie qui vous conduit aujourd'hui à travailler avec Roland Benabou à la reconstruction du sujet économique. Bien longtemps, l'homo economicus fut, et le reproche en a longtemps été fait à l'économie, un individu dont le comportement était trop prévisible pour ne pas sembler mécanique. Alors à cet automate tant décrié, vous avez décidé de donner de la chair et du souffle, sans pour autant renoncer un instant à rendre raison de son comportement. Et vous l'avez fait en donnant une autre dimension, je dirais même de l'épaisseur, au modèle microéconomique, pour y intégrer des attitudes qui ne sont pas irrationnelles ou désintéressées, mais qui relèvent d'une définition plus large de l'intérêt ou de la rationalité. Je pense par exemple à l'altruisme, à la générosité, ou à la volonté de paraître posséder ces qualités, qui peuvent être modélisées par la théorie économique comme une autre sorte d'intérêt ou de rationalité que vous qualifiez de pro-social, je vous cite. Avec à la clé des conclusions remarquables. Il est parfois inutile et même contre-productif d'utiliser des incitations financières trop visibles pour modifier les comportements. Plus une action est publique, plus le désir d'être ou de paraître est fort et plus le recours à l'incitation monétaire peut se révéler inefficace. Nous sommes loin, très loin, de cet automate intéressé dont certains s'imaginent encore qu'il est au centre de l'analyse économique. Vous avez ainsi démontré que faire œuvre de chercheur dans les sciences humaines et sociales, ce n'est pas rejeter par principe l'application de certaines méthodes scientifiques à l'analyse d'un objet qui serait l'homme, avec une majuscule, et qui, au nom d'une singularité ineffable, échapperait à l'analyse. Mais ce n'est pas non plus renoncer à prendre pleinement en compte ce qui fait l'essence même de l'humanité, ce mélange d'innés et d'acquis, de raison, de passion, de passivité et d'activité qui nous caractérise. Car l'humanité n'échappe pas à tout discours rationnel. Elle n'est pas l'équivalent de la pensée sauvage avant Lévi-Strauss, c'est-à-dire quelque chose de si différent que songer même à en rendre raison paraîtrait parfaitement absurde. L'humanité peut être objet de science, d'une science qui connaît et qui respecte la singularité de son objet, mais qui n'en reste pas moins une science. Et cette conviction est, je le sais, profondément partagée par Raymond Boudon, qui ne peut être parmi vous ce soir et dont je tiens à saluer non seulement l'implication sans faille avec l'ensemble des membres du jury dans l'organisation du prix Claude Lévi-Strauss, mais aussi l'œuvre tout entière dont il vient de livrer une très belle synthèse. Et c'est cette même conviction qui fait de l'interdisciplinarité une exigence. Car pour rendre raison du comportement de cet être complexe et apparemment imprévisible qu'est l'homme, le concours des différentes sciences humaines et sociales est indispensable. On ne peut en effet étudier cet objet insaisissable sans unir à un moment ou à un autre les forces des différentes disciplines, faire se rencontrer la psychologie, la sociologie, la philosophie ou encore la science politique. Alors vous l'avez admirablement démontré, cher Jean Tirole, en vous livrant également à une analyse économique de la décision politique avec le concours de celui qui fut votre directeur de thèse, Eric Maskin, dont les travaux ont été couronnés du prix Nobel l'année même où vous receviez la médaille d'or du CNRS. Fort des acquis de la science politique, vous avez modélisé la prise de décision publique en prenant en compte tout à la fois les attentes des citoyens électeurs et le statut du responsable, qui peut certes être un élu, mais également une autorité indépendante ou un juge inamovible. Une fois encore, vous l'avez fait avec une précision et une subtilité extrême, en ne vous contentant pas d'opposer les responsables politiques, qui sont tout à la fois mus par leur volonté d'agir pour le bien commun, mais aussi leur espérance de voir leur action reconnue par leurs électeurs, aux autorités indépendantes qui, elles, pourraient se permettre de prendre des décisions impopulaires parce qu'elles n'ont pas de compte à rendre directement aux citoyens. Cette opposition, vous l'avez dépassée en prenant en compte non seulement la nature de la décision, mais aussi le temps qu'il lui faut pour produire ses effets, ce qui vous a amené à des conclusions nuancées sur l'efficacité des différents systèmes de décision. Et la responsable politique que je suis pourrait vous confirmer combien vous avez eu raison de vous arrêter sur cette délicate question du temps. Car la stabilité et la continuité changent tout. Et pour ma part, je mesure le privilège de pouvoir non seulement prendre des décisions, mais encore accompagner leur mise en œuvre et les voir produire leurs effets. La stabilité et la continuité sont essentielles. Sans elles, il n'est pas de réforme possible. Pour une raison très simple, celle-là même que vous avez amplement soulignée, c'est qu'on ne réussit pas une réforme sans lui donner le temps de produire des résultats et donc de faire ses preuves. Alors depuis plus de 3 années et demie, mesdames et messieurs, j'ai l'honneur de conduire avec l'ensemble de la communauté scientifique et universitaire une réforme que les gouvernements successifs avaient depuis si longtemps repoussée parce qu'ils refusaient de prendre le risque de l'impopularité même temporaire. Donner leur chance aux réformes en leur offrant le temps de convaincre et donc de produire leurs effets, c'est précisément le choix que nous avons fait en engageant la refondation des universités. Mais permettez-moi de l'ajouter immédiatement et de confirmer ainsi les paramètres de votre modèle, cher Jean Tirole. Ce choix, nous n'aurions pas pu le faire sans le soutien d'une large partie de la communauté universitaire et scientifique. Et je mesure là encore le privilège qui est le mien, celui de porter une réforme dans laquelle les enseignants-chercheurs, les chercheurs, les étudiants, leurs familles sont de plus en plus nombreux à avoir une occasion unique de donner enfin à notre grand pays de culture et de science les universités qu'il mérite. Vous le savez mieux que quiconque, vous qui êtes revenu en France après avoir fait votre doctorat et enseigné au MIT, parce qu'un grand chercheur, qui était aussi un très grand chef d'équipe, Jean-Jacques Lafont, auquel nous pensons tous ce soir, a su vous convaincre que vous retrouveriez à Toulouse le bouillonnement intellectuel que vous aviez tant apprécié à Boston. La suite, chacun de nous la connaît. C'est la création de l'Institut d'économie industrielle, puis de la Fondation Jean-Jacques Lafont, Toulouse Sciences Économiques. Votre ami Jean-Jacques Lafont a tenu sa promesse. L'effervescence scientifique, le croisement permanent des disciplines, les discussions à bâton rompu entre chercheurs venus d'horizons très différents, vous les avez retrouvés à TSE, qui est devenu en quelques années à peine un des hauts lieux de la science française. Qui l'aurait prédit ? Alors, un haut lieu de la science française, je dis bien la science française et non pas les seules sciences économiques, car TSE a toujours cultivé la rencontre avec les autres disciplines, défendant une certaine vision de l'économie, une économie ouverte aux autres sciences, une économie tout autant tournée vers la recherche fondamentale que vers l'application, une économie qui diffuse les progrès de la connaissance dans le tissu social et industriel de notre pays, contribuant ici à l'innovation. Alors, c'est la promesse de retrouver cet état d'esprit en France qui vous a fait revenir dans notre pays, cher Jean Tirole. Il y a maintenant près de 20 ans, vous avez eu l'audace de faire ce pari. Je tenais ce soir à vous en remercier et à associer à ces remerciements votre famille qui vous entoure aujourd'hui, comme elle l'a toujours fait, et qui a bien voulu faire ce pari avec vous. Car ce pari, c'est celui qu'avec la communauté universitaire, nous faisons depuis désormais 3 années et demie. Cette effervescence, ce bouillonnement intellectuel, cette interdisciplinarité choisie, assumée et construite au quotidien, ces conditions de travail à la hauteur du talent de nos enseignants, de nos chercheurs, de nos étudiants, c'est ce que nous voulons offrir à tous ceux qui rejoignent nos universités et nos organismes de recherche. Et c'est la raison pour laquelle nous avons non seulement donné l'autonomie aux universités, réorganisé notre recherche, mais aussi engagé un effort financier sans précédent. Budget après budget, la France investit comme jamais elle ne l'avait fait dans l'enseignement supérieur et la recherche. Avec l'opération Campus, c'est 5 milliards d'euros qui permettront de remettre à neuf nos universités. Et maintenant, les investissements d'avenir et leurs 22 milliards, les 22 milliards qu'ils réservent à l'enseignement supérieur et à la recherche. Je tenais à le dire devant vous ce soir, mesdames et messieurs les académiciens, les sciences humaines et sociales doivent être au cœur des investissements d'avenir. Elles seront au cœur des investissements d'avenir pour une raison très simple. C'est qu'avec ce plan exceptionnel, nous voulons construire la France de demain. Et pour cela, nous avons besoin d'économistes, nous avons besoin de sociologues, nous avons besoin de philosophes, de juristes, de politistes, d'historiens, de géographes, de linguistes, de démographes. Une société ne construit pas son futur à l'aveuglette. Elle ne décide pas de son avenir sans se connaître et se comprendre elle-même. Cela n'aurait tout simplement aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle, mesdames et messieurs, je vous le dis solennellement, je ne laisserai jamais les sciences humaines et sociales devenir le vernis culturel des investissements d'avenir. J'en fais une cause personnelle. Et j'irai plus loin encore. Je suis convaincue que les investissements d'avenir sont une occasion unique non seulement de conforter nos humanités et nos sciences sociales, mais aussi de les replacer au cœur de notre système d'enseignement supérieur et de recherche, comme nous y invitait le Conseil pour le développement des humanités et des sciences sociales. Nous ne pouvons plus nous satisfaire des cloisons étanches dressées entre les disciplines et entre grands domaines du savoir. Jean Tirole, comme Dan Sperber, l'ont prouvé chacun à leur manière. C'est de la rencontre des sciences que naissent aujourd'hui les idées les plus fortes, les plus créatrices et les plus fécondes. Ce dialogue des disciplines, de toutes les disciplines, au service du progrès scientifique, économique et social, c'est lui que nous devons structurer et rendre possible. C'est le grand défi qui attend encore aujourd'hui notre recherche et c'est lui que nous avons les moyens de relever avec les investissements d'avenir. Ce défi, Claude Lévi-Strauss a su en son temps le relever mieux que quiconque. Et c'est pourquoi je sais que cette figure tutélaire du génie français, ce géant parmi les géants, continuera encore longtemps de nous inspirer et d'ouvrir notre route. Je vous remercie.
Madame la ministre, Madame Lévi-Strauss, Monsieur le Président de l'Académie, Monsieur le Chancelier de l'Institut de France, Messieurs les secrétaires perpétuels, Mesdames et Messieurs les académiciens, Mesdames, Messieurs. C'est un très grand honneur et un grand plaisir d'être lauréat du prix Claude Lévi-Strauss. Ce prix me touche à plusieurs titres. Celui de la reconnaissance par les pairs, bien sûr. Je remercie chaleureusement les membres du jury qui m'ont jugé digne de ce prix. Je remercie tout particulièrement pour leurs interventions Raymond Boudon, ce grand sociologue qui, bien avant d'autres, s'était fait le défenseur de l'approche quantitative et de la nécessité de construire des théories prédictives. Et Roger Guenry, un de nos économistes les plus réputés dans le monde, qui m'a fait l'amitié de lire, de prononcer la Laudatio de façon très touchante. Je suis honoré également par le symbole, Claude Lévi-Strauss, dont les travaux ont marqué mes années lycéennes, comme pour beaucoup d'autres, beaucoup d'entre nous. Lévi-Strauss, ce scientifique hors norme, qui a recherché les lois cognitives communes à toutes les cultures et prôné la réplicabilité des résultats, bien loin du mouvement relativiste. Je vous suis très reconnaissant, Madame la Ministre, pour ce signal fort que vous avez envoyé en créant ce prix aux sciences humaines et sociales, les SHS. Toute décision publique contient une part d'expression quant aux valeurs et objectifs que possède ou se fixe la société. J'apprécie aussi la gouvernance que vous, Madame la Ministre, avez choisie pour le processus d'octroi du prix. Délégation à l'Académie des sciences morales et politiques et désignation du récipiendaire par un jury international indépendant. La gouvernance, plus généralement, vous le savez, est la clé de l'avenir de notre système d'enseignement supérieur et un thème qui me tient très à cœur. Et enfin, je suis heureux que ce soit un prix en SHS, car je crois fermement à l'interdisciplinarité dans ces sciences, étudiant toutes les mêmes individus et les mêmes groupes, mais encore trop déconnectés. À ce sujet, les économistes ont trop longtemps ignoré les contributions de leurs collègues des autres sciences sociales, alors que ces derniers ont beaucoup à leur apprendre sur le comportement et les stratégies des individus et des groupes. Inversement, les autres sciences sociales s'intéressent aux mêmes individus et aux mêmes groupes que les économistes, ce qui suggère que l'économie, la psychologie, la sociologie, les sciences politiques, l'anthropologie et le droit ne sont que des spécialités d'une même et unique discipline. Depuis une vingtaine d'années, l'économie s'est considérablement ouverte vers les autres SHS. Mes travaux, comme ceux de nombreux autres économistes, se veulent fortement ancrés dans les sciences sociales. Je voudrais faire allusion à certains, non, je l'espère, par immodestie, mais comme simple illustration d'une évolution qui dépasse largement mes recherches et celles de mes collègues toulousains. C'est ainsi que j'ai beaucoup travaillé aux confins de la sociologie et m'inspirant des travaux, entre autres, de Michel Crozier, sur les phénomènes de collusion et de bureaucratisation dans les organisations. Dans un autre registre, avec Philippe Aguillon, Mathias de Watripon et Bernard Caillot, j'ai souvent abordé les questions de communication et de persuasion, touchant au concept très weberien de pouvoir, d'autorité morale et des sources de légitimité. Dans une autre recherche sur les stéréotypes, j'ai essayé d'expliquer pourquoi des pays, des groupes ethniques ou religieux sont perçus comme honnêtes, industrieux, corrompus, belliqueux ou soucieux de l'environnement. De même que des entreprises sont tributaires de leur image de qualité. Dans cette recherche, comme dans d'autres, l'idée était de réconcilier la conception durkheimienne du fait social contraignant l'individu et l'individualisme méthodologique et le refus du déterminisme. Ce travail montre l'existence de dynamiques vertueuses ou infernales. Les incitations d'un individu à se comporter de façon prosociale sont réduites par une mauvaise image collective du groupe auquel il appartient. En conséquence, un groupe peut faire l'objet de discriminations autoréalisatrices, tandis qu'un autre groupe, par ailleurs totalement identique, n'en souffre pas. De plus, les réputations collectives sont soumises à un phénomène d'hystérésis. Une communauté, un pays ou une entreprise peuvent souffrir très longtemps de préjugés avant de pouvoir redresser leur image. Madame la ministre, vous m'avez fait le grand honneur d'évoquer les travaux que Roland Benabou, un grand chercheur de la diaspora en poste à Princeton, et moi-même avons accomplis aux confins de la psychologie. La théorie des jeux et de l'information trouve en la psychologie un domaine d'application certes inattendu, mais finalement assez naturel. Par exemple, les psychologues et philosophes ont depuis longtemps analysé le phénomène d'automanipulation des croyances. En particulier, les individus, le plus souvent, cherchent à réprimer, oublier ou réinterpréter les informations qui leur sont défavorables. En fait, c'est à Toulouse, dans un article publié il y a 10 ans, par 2 jeunes doctorants, Juan Carillo et Thomas Mariotti, qu'est née la nouvelle théorie de l'information ou théorie de l'information comportementale. Inspirés par leurs travaux, Roland Benabou et moi-même avons repris le thème bien connu de l'automanipulation des croyances, cette proportion que nous avons tous atterrée dans un coin de notre tête, ou à réinterpréter certaines informations qui nous sont défavorables ou nous inquiètent. Quel rapport avec l'économie, me direz-vous ? Il s'agit là encore d'une application de la théorie des jeux et de l'information, car il s'agit bien d'un jeu entre incarnations successives d'un même individu, où chaque incarnation cherche à cacher l'information déprimante aux incarnations futures, qui éventuellement seront conscientes de la sélectivité de leur mémoire. Nous avons donc dressé une typologie de tout ce qui pouvait pousser quelqu'un à manipuler ses croyances et avons étudié l'impact de cette manipulation sur son bien-être. Rappelez-vous que Platon suggérait que la manipulation des croyances était nocive pour l'individu. Par contre, de nombreux psychologues, comme James et Seligman, avaient insisté sur la nécessité de se voir de manière positive. Pour bien comprendre l'automanipulation des croyances, il faut d'abord comprendre pourquoi un individu voudrait se mentir à lui-même. C'est-à-dire l'aspect demande, pour employer du jargon économiste, l'aspect demande de l'automanipulation. Après tout, la théorie classique de la décision montre bien qu'avoir une meilleure information permet de prendre de meilleures décisions. Dans notre recherche avec Roland Benabou, nous mettons en emphase 3 raisons pour lesquelles l'individu peut vouloir se mentir à lui-même. La peur du manque de volonté et de la procrastination, qui pourrait être aggravée par un manque de confiance en soi. Une confiance en soi, bien sûr, permet de contrecarrer en moins en partie ce manque de volonté. L'utilité d'anticipation, je suis désolé pour tout ce jargon, Mais c'est simplement le fait qu'ignorer les aspects négatifs de son avenir, par exemple la possibilité d'accident ou de décès, permet une existence plus heureuse, tout en entraînant par ailleurs des inefficacités dans la décision, par exemple l'absence de check-up médical ou de port de ceinture en voiture. Et enfin, la consommation de croyances que l'on a sur soi-même. Nous voulons tous nous sentir ou nous croire intelligents, beaux, généreux, utiles à la société, etc. Du côté offre, comment cette manipulation s'opère ? Nous regardons la manipulation de la mémoire, les stratégies de répression ou inversement de répétition, le refus d'acquérir, d'entendre, de comprendre certaines informations, ou encore le choix d'action, signalant ses traits de caractère et définissant l'identité. Cette approche générale permet de revisiter de nombreux thèmes traditionnellement perçus comme étant complètement hors du champ de l'économie. Par exemple, l'émergence et la dynamique du phénomène identitaire, ou l'étude de l'intervention de l'État et du droit sur les normes sociales, ou encore l'émergence des idéologies et autres formes de croyances collectives, le groupthink en anglais, les religions, etc. Sur ce dernier sujet, nous avons observé que dans certaines circonstances, les individus ont intérêt à mettre leurs croyances en conformité avec celles de leurs concitoyens. Par exemple, dans un pays où il y a peu de redistribution, peu de protection sociale, il devient important de se motiver à l'effort en pensant que l'effort, par opposition à la chance ou les relations, a un rôle absolument déterminant dans le destin individuel. Inversement, si les électeurs sont convaincus que chacun a sa chance et que le malheur est, sauf handicap dû à la paresse, le pays votera pour un système peu redistributif. On peut très bien avoir des croyances radicalement différentes entre pays sur les origines de la richesse et de la réussite, croyances associées à des niveaux de redistribution très différents. De fait, ces différences de croyances entre pays, disons les États-Unis et l'Europe continentale, ont été documentées de façon systématique par les sociologues et les psychologues. Je voudrais bien sûr terminer par quelques remerciements. Je me suis promis de ne pas mentionner ma famille pour ne pas avoir la gorge serrée, comme ça a été le cas il y a 3 ans au CNRS. Donc je remercierai les chercheurs, tout d'abord. Je ne vous cache rien quand je dirais que la recherche est en grande partie affaire de passion. L'environnement intellectuel, et ça a été rappelé par Madame la Ministre, est absolument crucial, non seulement pour l'apprentissage et la mise à jour de la connaissance, mais aussi pour la motivation même. J'ai eu la grande chance, dans ma carrière, de me trouver au bon moment, au bon endroit, et de bénéficier de collaborations avec des collègues, des étudiants exceptionnels, dont j'ai beaucoup appris. Parmi eux, mes collègues toulousains, bien sûr, Éric Masquine, mon directeur de thèse, qui a prononcé un discours très touchant lors de la remise de la médaille d'or du CNRS. Et aujourd'hui, c'est Roger Guenry, celui qui m'a initié à l'économie, qui me fait l'amitié de prononcer la Laudatio. J'ai beaucoup appris de Roger, mais je voudrais profiter de l'occasion pour lui faire une confession. Quand j'étais jeune étudiant en prédoctorat, Roger très gentiment passait de longues heures à m'expliquer les mécanismes de la réforme fiscale. Alors nous étions là dans son bureau, et Roger m'expliquait des réformes fiscales à 3 ou 4 dimensions sur un malheur à table noire qui n'avait que 2 dimensions. Or, si j'étais relativement à l'aise en mathématiques, je n'ai jamais pu conceptualiser dans l'espace. Maintenant, 34 ans plus tard, cher Roger, je peux t'avouer que je te regardais avec admiration, certes, mais sans grand entendement. Aux côtés d'Éric et de Roger, je ne peux évidemment ne pas mentionner notre ami commun Jean-Jacques Lafont, qui, comme en 2007, est le grand absent de cette cérémonie. On ne devient pas un grand chercheur non plus sans soutien institutionnel. Je tiens à remercier ici le Corps des Ponts, qui tout au long de ma carrière m'a donné les moyens d'accomplir la passion de la recherche. L'École des hautes études, à laquelle je suis associé depuis 15 ans. La Toulouse School of Economics, l'Institut d'économie industrielle et l'Université de Toulouse Capitole pour leur dynamisme et leur extraordinaire environnement intellectuel. Et enfin, tous ceux et celles, partenaires du monde économique, décideurs publics, chercheurs qui nous font don de leur intelligence et de leur générosité pour nous permettre d'accomplir des rêves institutionnels et intellectuels rendus possibles par les réformes que vous avez entreprises, Madame la Ministre. À vous tous et toutes qui m'avez fait l'amitié d'être présent ce soir, un grand merci.
Vous venez d'écouter les discours de Valérie Pécresse et Jean Tirole à l'occasion du prix Claude Lévi-Strauss 2010.